Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Poésie ininterrompue, Jean Thibaudeau par Jean-François Chevrier, en 1978. Membre du premier comité de la revue telle qu'elle, auteur d'une cérémonie royale, un premier roman salué comme un chef-d'œuvre, puis d'une trilogie, Ouverture, Imaginez la nuit, voilà les morts. Enfin, mai 68 en France, Jean Thibaudeau est un écrivain dont l'œuvre reste à envisager pour son importance réelle, tant il a bougé les lignes de la création littéraire. Il affirmait que le roman était la forme la plus adaptée à une pratique large de l'écriture, ce que la poésie, à son avis, ne faisait plus chez les modernes, où elle était devenue une pratique restreinte, centrée sur le langage lui-même. C'est en renouvelant l'idée et la pratique du roman, notamment à travers l'aventure de l'autobiographie, que la poésie elle-même s'en trouvera regagnée, reconquise. Jean Thibaudeau a toute sa vie cité les grandes épopées homériques comme des ancêtres du roman. Le roman, selon lui, est l'avatar des poèmes longs et pleins d'inventions des auteurs homériques, ce dont atteste ce fameux livre emblématique du XXe siècle, Ulysse de Joyce, ou encore La mort de Virgile d'Hermann Broch.
Thibaudeau, une question un peu inévitable pour commencer. Vous êtes romancier et vous participez à une émission qui s'intitule Poésie ininterrompue. Considérez-vous que vos romans sont des romans poétiques? Qu'est-ce que la poésie dans le roman? Qu'est-ce que le rapport de la poésie et du roman?
Oui, alors si on fait venir un romancier dans une émission poétique, c'est un signe des temps. Mais j'en suis d'accord. Bien sûr, ce sont des romans que je publie, les livres que je publie, je les appelle des romans. Alors des romans d'un certain genre, au point qu'en effet, certains critiques ont parfois voulu les appeler poétiques, enfin, romans poétiques ou poèmes en prose. Et je me suis toujours refusé à cette étiquette de poétique s'agissant de mes romans. C'était il y a déjà quelques années. Je ne pense pas que les querelles de mots de ce genre soient... Ce n'est peut-être pas très important, c'est toujours historique, c'est momentané, une querelle de mots. En même temps, il me paraît que c'est révélateur. Hein. De la même façon que, toutes choses égales, encore qu'on ne s'en écarte pas trop, Althusser autrefois disait que parfois la lutte des classes peut tourner sur ou autour d'un mot. De la même façon, toute proportion gardée, s'agissant de littérature, je dirais que lorsque, il y a donc quelques années déjà, dans le nouveau roman ou encore à tel quel, nous tenions beaucoup à imposer nos livres comme des romans. Le sens de ce combat, enfin, si je le comprends aujourd'hui, était à la fin d'imposer un jour nos livres comme une nouvelle définition de la poésie. C'est-à-dire que ce serait dans la mesure même où mes livres feraient bouger ou déplaceraient l'idée de roman, que du même coup, ils devraient faire bouger. Il devrait déplacer l'idée de poésie. Je pense personnellement que la poésie aujourd'hui est généralement une pratique restreinte de l'écriture, que la poésie n'est pas en somme capable d'intégrer, sauf exception, le roman dans sa pratique, tandis que le roman, à certaines conditions, est tout à fait en mesure de reprendre à son compte, disons, la poésie. Je pense, par exemple, que, je ne sais pas, Proust, c'est plus large que Valéry, ou encore, aux États-Unis, actuellement, que Burroughs, c'est plus large qu'aucun poète de sa génération. Donc je pense que le roman pourrait être conçu comme peut-être aujourd'hui, dans certains cas, le genre principale de ce qu'il faudrait appeler la fonction poétique.
Alors, en somme, si j'ai bien compris, vous voulez mettre la poésie dans le roman. Alors que d'une certaine façon, vous partez de Sartre, Sartre l'avait exclu de la littérature. C'est-à-dire que le roman, c'était la politique, c'était l'engagement, il n'y avait pas de reste. Et la poésie, elle, c'était le travail sur le mot, c'était donc du côté de l'art, du côté de la peinture, du côté des pratiques muettes qui n'avaient pas accès au débat idéologique.
Oui. Oui, alors ça, c'est un vieux livre de Sartre, c'est Qu'est-ce que la littérature de 1947, hein, je crois. Ouais. Donc il y a une trentaine d'années, mais je pense bien en effet que d'une certaine façon, nous ne sommes que très peu sortis de cette problématique sartrienne. Lorsque j'essaie de dire que je considère le roman comme pouvant être ou devant être aujourd'hui le genre principal de la fonction poétique, on pourrait s'en expliquer très longuement, recourir soit aux grands exemples, Proust, Joyce et compagnie, ou Melville, ou encore on pourrait recourir à des théoriciens comme Mikhail Bakhtin, hein, Bakhtin le soviétique et l'auteur des essais sur Dostoïevski ou sur Rabelais, etc. Mais c'est évidemment tout le contraire de ce que disait Sartre que j'essaie d'avancer. Avec, je crois, probablement, mais ça, je sais pas, il faudrait avoir le livre de Sartre sous la main, avec probablement des enjeux politiques ou historiques tout à fait importants. Lorsque, par exemple, au début du Qu'est-ce que la littérature, Sartre refoule, exclut de la littérature la poésie pour la mettre dans les jeux relativement gratuits de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le signifiant. Et ne garde pour la littérature que le roman en tant qu'il véhiculerait des idéologies. Donc ce geste initial du Qu'est-ce que la littérature de Sartre prépare le geste final, en somme, de son Qu'est-ce que la littérature, qui est que le grand intellectuel, éventuellement auteur de romans, type Jean-Paul Sartre, en appelle, c'était en 1947, à la masse, par exemple, des instituteurs ou des enseignants pour créer, fonder une espèce de grand parti des intellectuels, dirigé par les grands intellectuels. Alors que, on va peut-être arrêter là pour cet aspect des choses, lorsque je pense que le roman, c'est l'une des pratiques de la poésie. Je me retire, alors vous parliez aussi de l'engagement, bon, je me retire toute espèce de droit à être un grand intellectuel. Par contre, pour ce qui est par exemple de l'école, puisque c'est à cela que Sartre aboutit dans son Qu'est-ce que la littérature, pour parler de l'école, ce qui m'intéresserait, moi, c'est non pas du tout évidemment d'organiser les enseignants dans un parti des intellectuels, mais peut-être de proposer aujourd'hui, avec beaucoup d'autres, à une époque, n'est-ce pas, d'échec scolaire tout à fait tragique dans nos écoles, de proposer en somme des nouvelles manières de lire, nouvelles manières d'écrire, enfin d'où que j'ai terminé la petite anthologie là, de cette semaine, tout à l'heure, par un texte destiné aux enfants. Comme l'un aboie maintenant dans cette rue à ma droite où parlent des enfants et ils jouent à je ne sais quoi, ils comptent à voix haute avec leurs planches à rouler et il y a des merles. Quelle fenêtre ! Je l'écris. Et de l'autre côté, à ma gauche, un piano passe à travers les murs et remonte dans le soleil de mars. Mais les mots sont-ils faits pour raconter les bruits ? Les mots sont-ils faits pour raconter les bruits ? Coton. En ce moment, j'y suis, dans cette disposition d'écrire l'Amérique. Ils, les oiseaux, ils étaient bleus, ils étaient rouges, sur la neige du jardin. Il ne s'enfonçait pas dans ce mètre de neige et s'envolait dans les arbres. Il fait jour. Demain, elle reprend l'avion. Pas oublier non plus, autour de cet endroit vitré, près de la route, près de la mer, la haie aux fleurs jaunes, au-dessus de la mer. Avenue des Mohicans, au-dessus de la neige. Nous en coupions, avant qu'elles ne fleurissent, des branches, avec leurs bourgeons semblables à des brindilles, que nous mettions dans l'eau, dans du verre, sur la table, et les fleurs, aussitôt, comme par miracle, venaient au monde le lendemain matin, en l'honneur de Matisse. Toute notre histoire est l'histoire des pots, savez-vous, c'est de l'herbe, comme au ras du parquet natal, la veuve qui s'appelait Gentil. Le violet était sa couleur. Et faite de la musique, voulez-vous. Je ne sais pas pourquoi je me suis trouvé conduit à écrire des phrases effectivement bizarres. Je crois que ces phrases me représentent dans ma gestualité la plus authentique lorsqu'elles sont réussies. En même temps, d'ailleurs, j'ai remarqué en lisant l'anthologie que je lisais beaucoup plus facilement des textes qui étaient écrits par d'autres que les textes que j'ai écrits moi-même, peut-être précisément parce qu'ils sont trop proches de moi, n'est-ce pas ? Je crois que d'une part, cette syntaxe est faite par recherche de ma propre gestualité, de ma propre voix, recherche de l'inscription de ma propre voix selon ma propre écriture, etc., etc. Cela dit, bien évidemment, il y a sûrement des motifs généraux qui ne me concernent pas seuls et culturels. D'une part, le fait que j'ai le droit d'écrire un peu comme je le veux, puisque la littérature moderne donne ce droit à l'écrivain et qu'il peut le prendre. D'autre part, effectivement, si je dois en quelque sorte inventer une syntaxe dans mes romans, c'est probablement que la phrase traditionnelle, disons la phrase que j'aurais apprise à l'école, cette phrase ne me convient pas. Et pourquoi ne me conviendrait-elle pas ? En effet, probablement parce que je ne suis pas le sujet de ces phrases-là. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr, en somme, de mon identité lorsque j'écris. Peut-être que lorsque j'écris, j'ai perte d'identité. À partir de quoi, peut-être, alors ce que vous appeliez, pourquoi pas les états d'âme, peut-être qu'en effet, je ne peux écrire sans reprendre comme ça de la mémoire, sans jouer, sans mimer des états d'âme ou des états de corps, n'est-ce pas ? Peut-être effectivement que chaque phrase ne peut pas aller sans une sorte d'arrachement, d'invention de représentation. Et ce serait lyrique. Mais alors ça, ce n'est pas du tout évidemment moi qui l'ai inventé, c'est dans le roman moderne souvent, c'est aussi dans la poésie. Je pense par exemple, tout à fait admirablement, chez Arthur Rimbaud, qui précisément marque, me semble-t-il, dans ses poèmes proprement dit, mais dans ses proses plus encore, marque le passage d'une certaine façon d'être poète à celle qui serait la nôtre aujourd'hui, à quelques-uns. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'a publié Rimbaud, c'est-à-dire La saison en enfer, c'est du récit. À l'intérieur de quoi ? À l'intérieur de quel récit qui est en prose ? Il y a du vers. Et d'autre part, me semble-t-il, enfin, chacun des fragments de prose, qu'il s'agisse de La saison ou qu'il s'agisse des Illuminations, est lui-même un récit. C'est-à-dire que dans chaque fragment de Rimbaud, il y a invention du poète. Le poète n'existe pas avant, n'est pas donné une fois pour toutes et par avance, comme dans la profération poétique des temps anciens, n'est-ce pas ?
Alors, je disais, le sujet se resitue un peu constamment. Il cherche à se relancer à tout moment, d'où votre usage des blancs, un énorme usage des blancs dans vos romans. Les paragraphes font deux pages, trois pages, puis un blanc, les phrases s'interrompent, et on a l'impression souvent de repartir à zéro, en somme. Bon. Cela aussi me semble participer d'une écriture de la mémoire. Il me semble que vos romans sont d'abord des romans de la mémoire. Alors, la question que je vous poserai, c'est qu'est-ce qui assure la cohésion de cette écriture de la mémoire, qui est par ailleurs si fragmentée, quand il n'y a plus de récits et plus de personnages ? Et quand il n'y a pas non plus une démonstration théorique à l'appui, comme dans un certain nombre de textes de la modernité ?
Oui, en effet, mes romans évitent autant que possible de se justifier théoriquement de l'intérieur. Et en effet, probablement, en tout cas pour ce qui est d'ouverture, tout à fait, les romans suivants, c'est peut-être un peu différent, ces romans font référence à la mémoire de celui qui écrit. Mais alors là, il faut faire attention tout de même, tout n'y est pas à strictement parler mémoire. Il peut y avoir, par exemple, citation textuelle prise dans n'importe quel livre qui ne serait pas de moi. Par contre, tout est donné comme mémoire pour le lecteur. Mais cela dit, alors je reviendrai un peu à ce que je disais à propos de la syntaxe. Autant que possible, je m'efforce, je veux, sinon je n'écris pas, intérioriser ce que j'écris, y croire. Et croire à ce que j'écris, c'est effectivement probablement croire, penser l'avoir vécu. Alors le souvenir qu'il y a derrière les phrases, mes phrases, ce souvenir peut exister tout à fait consciemment, même avant même d'écrire, et c'est la recherche à ce moment-là de l'expression de ce souvenir. Le souvenir peut être plus ou moins appelé par la phrase elle-même sans que pour autant je le reconnaisse. Oui, vous demandiez d'autre part ce qui faisait récit, c'est-à-dire comment le récit pouvait s'organiser, prendre une relative cohérence et...
Faire un livre également.
Et faire, oui, alors,
comment
alors,
le livre se constitue-t-il ? Est-ce que c'est le livre lui-même en fait qui fait le livre ?
Probablement, en tout cas pour les ouvertures, Imaginez la nuit et Voilà les morts, c'est en effet probablement le livre lui-même, si je puis dire, qui fait le livre. Enfin, il y a une cohérence propre au livre, oui. J'ai écrit autrefois un premier roman, puis trois romans qui font ensemble. Je pensais continuer et ça s'est interrompu. J'ai effectivement écrit un essai pour essayer de lire ces trois romans après les avoir écrits. Pourquoi est-ce fini ? Bon, je pense que c'est au fond tout à fait biographique et que ces trois romans enferment, disons, quelque chose comme une vie ou une peau. Et j'aurais changé de peau, je serais dans une autre vie. Je pense que c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Une vie d'après ces romans, en tout cas. Ces romans qui font partie de ma vie, n'est-ce pas ? Puisque j'y raconte ma vie d'une part, mais ils font ma vie aussi, une partie de ma vie. Donc je serais dans une autre vie que celle où j'étais quand j'écrivais ces romans et quand j'étais dans ces romans. Et les C'est évident, si vous voulez, qu'un projet romanesque comme ça, qui se poursuit sur quand même, je crois, une bonne dizaine d'années, puisque j'ai dû commencer à écrire les ouvertures vers 1960, que le dernier a paru, le troisième en 1974. Donc il y a tout un projet d'écriture qui se met en place et qui avance, et qui invente par conséquent ses lois. Ses lois notamment, disons, culturelles. Enfin, il y a ce qui peut entrer dans ces romans, et il y a ce qui ne peut pas y entrer, de la même façon qu'à l'époque classique, dans tel ou tel genre poétique, on pouvait dire ceci, on ne pouvait pas dire cela. Donc il y a un certain langage qui s'est constitué dans ces romans, qui à un certain moment ne me suffit plus à moi. En tant qu'effectivement, j'ai à me mettre à jour, vous dites actualisation de celui qui a écrit. Oui, bien évidemment, et oui, bien évidemment, dans le politique. Et alors là, il faudrait peut-être dire que pour moi, le politique, c'est aussi l'ensemble de... J'appelle politique à un premier degré, pour moi, en tant qu'écrivain, l'ensemble de ce que j'écris, n'est-ce pas ? Puisque je n'écris pas que des romans, j'écris dans des tas d'endroits à la fois, dans des journaux, ou que je travaille à la radio, etc. C'est aussi ça, l'inscription dans le politique, n'est-ce pas ? C'est une inscription multiple. Il y a un moment où cette écriture plus ou moins variée, enfin... diversifié ou encore éparpillé, me permet de suivre tel couloir romanesque. Hein. Il y a un moment où tout le tissu, tout le terrain a changé, alors dans mon travail, mais évidemment dans la société en général, à ce moment-là, je me retrouve probablement avec autre chose à écrire. On crie, 10 ans, ça suffit. Et bon anniversaire, mon général. On crie, à bas l'état policier et gouvernement populaire. On chante l'international. Et voici une grande photo de cette foule immense sur le fond blanc, gris ou vert des pierres et des arbres qui se rassemblent et piétinent à Paris au début de l'après-midi, à la République et autour, jusqu'à la gare de l'Est, avec ses drapeaux rouges, ses banderoles syndicales et professionnelles, ses banderoles slogans, étudiants, enseignants, travailleurs, solidaires, et les milliers de solitaires. Et les groupes à drapeaux noirs et rouges, à drapeaux rouges à portraits de Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao Tse-tung, et tous les âges, hommes et femmes, garçons et filles, enfants. Alors j'écris du roman, n'est-ce pas, en somme, continuellement, d'une certaine façon. Enfin, je n'écris pas du roman, ce n'est pas du tout des histoires que je raconte. Écrire du roman, pour moi, est une sorte d'activité permanente ou impermanente, je ne sais pas. Mais enfin, j'écris sans cesse du roman, c'est une de mes activités, n'est-ce pas. Je n'écris pas des romans, a priori, j'écris d'abord du roman. Mais écrivant du roman, il arrive évidemment un instant où j'ai envie de travailler dans un même chantier romanesque, sinon l'ensemble, du moins un certain nombre d'écritures que je me serais donné de tous autres moyens que ceux du roman. Hein. C'est ainsi que, par exemple, dans le livre que j'écris actuellement et dont des extraits apparaissent dans le numéro de Digraph 15, ceux qui sont publiés ou d'autres, il y a par exemple des reprises de textes d'abord écrits pour la radio ou que encore certains de ces passages viennent d'essais, enfin. De toute façon, si vous voulez, quand j'écris un article pour un quotidien comme l'Humanité, quand j'écris une espèce d'hommage à Brecht pour une revue, ou lorsque je travaille sur la photographie, etc., etc., ce n'est jamais la même écriture qui convient. Évidemment, il n'y a jamais de réponse à ce type de question. Comment écrivez-vous? Pourquoi? Mais on peut donner quelques réponses ou quelques éléments de réponse. Me semble-t-il, par exemple, jusque dans ces romans que j'ai publiés jusqu'à présent, d'une certaine façon, le matériel principal, cela va bien de soi, était d'abord mon enfance ou mon adolescence, puis les premières années de ma vie adulte, n'est-ce pas, hein? C'est tout ce matériel-là qui est pris en compte par ces romans. À 43 ans, puisque j'ai 43 ans, j'ai tout un autre matériel biographique à reprendre en compte, sans évidemment pouvoir jamais abandonner, laisser derrière moi, par exemple, l'enfance, que j'ai déjà écrite. Il s'agit toujours qu'elle se réécrive. Mais pour que l'enfance se réécrive, il faut aussi, et cela est complètement, me semble-t-il, dialectique en quelque sorte, il faut aussi que j'apprenne à écrire ma vie adulte. Ma vie adulte, alors cela va depuis ma biographie, si l'on veut, privée, si tant est qu'on ait une biographie privée, ce que je ne pense pas, en tout cas pour un écrivain, et puis alors mes écritures même, ce qui ne veut pas dire que j'ai à tâche que je me donne à tâche de mettre dans un roman, dans un seul livre, l'ensemble de mes manières d'écrire, ce qui veut dire que si tout projet d'écriture est un projet de réalisme, par conséquent que si le réalisme d'un livre se mesure à la quantité de langage au pluriel, voilà, ou aux qualités de langage pluriel qu'il peut contenir, n'est-ce pas, j'ai aujourd'hui à 43 ans un tout autre problème de réalisme. En ne parlant que de moi, de façon sans aucun volontarisme, j'ai un tout autre projet réaliste que celui que je pouvais avoir à 20 ans ou à 30 ans.
Ce projet pourrait être de transporter la littérature, le littéraire, l'art, l'artistique dans un projet culturel, dans une question culturelle? Quel sens cela peut avoir pour vous de poser la question culturelle?
Je crois que ce qu'on peut appeler le culturel en tant que politique relativement générale, et puis ce qu'on pourrait appeler l'artistique en tant que politique d'un individu en particulier, ou économie d'un individu en particulier, c'est deux, il me semble que ces deux aspects du travail de l'écrivain, le travail proprement culturel et le travail proprement artistique, doivent absolument se différencier, n'est-ce pas, mais qu'ils ne sont pas indépendants pour autant l'un de l'autre, en tout cas qu'ils ne devraient pas l'être, qu'ils devraient communiquer par des dizaines, par des milliers de canaux. C'est-à-dire qu'a priori, si vous voulez, je ne me dis pas, pour ce roman que j'écris, il faut que je parle de ceci et de cela, par exemple de la guerre du Vietnam, non. J'ai simplement envie d'écrire comme ceci et comme cela. Et je vois bien ce que j'intègre. Si j'intègre, par exemple, la guerre du Vietnam d'une façon ouverte et déclarée dans le roman que j'écris, alors qu'elle se trouve d'une façon censurée, masquée, refoulée, elle y est présente dans mes autres romans, c'est aussi, par exemple, parce que j'en passe par des souvenirs américains, en langue anglaise, n'est-ce pas, où il s'agissait notamment de la guerre du Vietnam. Donc, cette question de la sincérité, n'est-ce pas? Ou encore, si je pense pouvoir peut-être, je ne sais pas, intégrer une partie de mon travail sur Gérard de Villiers d'une façon ou d'une autre en le transformant dans le roman en cours, c'est aussi parce que Gérard de Villiers me donne à penser la question du livre et de l'exploration de l'espace du livre, me la donne à penser, ou encore Alexandre Dumas ou toutes ses lectures de Carr, me donne à penser ce qu'est un livre, parce que j'appellerais la lecture dévorante ou l'orgie de lecture, avec la même radicalité, en somme, que j'ai cherché cet espace du livre dans l'écriture de mes livres précédents.
Gérard de Villiers existe pour nous faire savoir que c'est vers la même époque, il y a plusieurs siècles, que l'Occident a découvert l'emploi qu'il pouvait faire de la poudre et de l'imprimerie. Emploi d'ailleurs relativement restreint, modéré, jusqu'au siècle dernier, qui voit les débuts de l'alphabétisation en masse et des grandes guerres. Jusqu'où cela peut-il aller ? Le monde entier est au bout du fusil. Des livres et des journaux sous de bonnes couvertures d'artillerie recouvrent la planète. Aujourd'hui, celle-ci ne fait plus qu'un. Elle est constamment quadrillée, informée, photographiée, écrite, parlée, bombardée, sous tous les angles possibles, sous ses parapluies atomiques. On meurt davantage. On peut même mourir tout à fait, mais on vit plus longtemps. Nous ne savons pas ce que ça veut dire, mais nous n'arrêtons pas d'être au courant de ce qui se passe. Et c'est ainsi dans ces conditions que chaque année en France, les aventures de SAS sont diffusées à 4 millions d'exemplaires. Ces 4 millions d'exemplaires font un certain poids de papier. Combien de tonnes ? Environ 1000, si on évalue l'exemplaire à 250 grammes. C'est à quoi servent les forêts. Les livres ne sont pas faits avec rien. Évidemment, ce n'est pas pour les perdre dans la nature qu'on transforme les arbres en pâte à papier. Et ici, moins que jamais, tous les deux mois, un nouveau SAS vient s'ajouter au précédent dans notre histoire.
Pendant tout un temps, si j'avais mis des noms propres dans mes romans, je me serais fait violence. Dieu sait pourquoi. Mon écriture romanesque refoulait le nom propre, qui devait bien revenir par ailleurs, n'est-ce pas, sous forme d'anagramme ou de jeu de mots involontaires, etc. Telle était ma sincérité de romancier à l'époque, et telle elle est aujourd'hui que j'ai besoin de nom propre. Si je ne me trompe pas, c'est un élargissement. Si je me trompe, c'est une tricherie. Je n'en suis pas juge.
Sister Flushbottom, we want you to take the stand and tell the court where you were on the night of June the 3rd. Yes, 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 yes. Where were you on the night of June the 3rd? What'd you do on the night of June the 3rd? Did you meet a stranger? Did you take a walk? Was your heart in danger? So you won't talk, huh? Who'd you love while the world was counting sheep, huh? Promised that you'd be a one-man girl for keep, yes. Just remember, I heard every word. 'Cause we were together on the night of June the 3rd.
Si le propre du roman est de remplir le livre pour la lecture silencieuse, peut-être à ce moment-là que le propre de la poésie serait la voix, que la poésie c'est de l'oral, de l'écrit fait pour parler, ou du parler fait pour être noté. Hein, c'est l'oral. Et peut-être alors que cette même question des noms propres ou des langues étrangères, il se trouve que j'ai toutes sortes de résistances vis-à-vis des langues étrangères, que généralement je n'arrive pas, je ne sais pas les parler. De la même façon que j'ai pu avoir, être gêné, dérangé par mon propre nom, par exemple. Donc peut-être effectivement que si je veux bien aujourd'hui me référer à la poésie, au point par exemple d'inclure des espèces de poèmes dans les fragments du roman, c'est peut-être aussi parce que je veux regagner ma voix. Retrouver ma voix d'une certaine façon.
'Cause we was together on the night of June 3rd. Yes, yes, yes. Well, all right then. Now latch on. Here we go. We're gonna ride over the bumps and get a gang of clothes and hang them out on the line. This is the Clothesline Ballet.
Jean Thibaudeau a publié Une cérémonie royale, roman. Édition de Minuit, 1960. Ouverture. Roman. Seuil, 1966. Essai sur Francis Ponge. Gallimard, 1967. Imaginez la nuit. Roman. Seuil, 1968. Mai 1968 en France. Seuil, 1970. Dans la neige, récit, édition Promesse, 1971. Intervention, édition Sociale, 1972. Voilà les morts, roman, seuil, 1974. Jean Thibaudeau publie ou a publié notamment dans La Nouvelle Revue Française, Telle qu'elle, Les Temps modernes, Critique, Digraphe, La Nouvelle Critique, L'Humanité, L'Observateur spécial photo. Jean Thibaudeau dirige les cahiers critiques de la littérature. Le numéro de juin 1978 de la revue Digraphe est consacré à Jean Thibaudeau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 juin 1978.